soir. Dans un communiqué publié le week-end dernier, l'ONG International Global Witness invite le Parlement congolais à suspendre l'adoption d'un projet de loi sur les hydrocarbures. Elle souhaite qu'on y ajoute des mesures fondamentales pour empêcher la corruption et le forage dans le parc de Virunga classé au patrimoine mondial. Quelle analyse faire de la proposition de Global Witness? Nous recevons dans cette émission Nathanaël Dayeux, chargé de campagne à l'ONG International Global Witness. Monsieur Dayeux, bonsoir.
Bonsoir.
Françoise Zekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Il est rapporteur adjoint de la commission Environnement, Ressources naturelles et Tourisme à l'Assemblée nationale. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Alain Yung.
Willy Kalinga est directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Monsieur Kalinga, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'ONG International Global Witness demande au Parlement congolais de suspendre l'adoption d'un projet de loi sur les hydrocarbures. Elle propose qu'on y ajoute des mesures fondamentales pour empêcher la corruption et le forage dans le parc de Virunga, classé au patrimoine mondial. Cette ONG l'a fait savoir dans un communiqué publié vendredi dernier. Kevin Kouté pour les détails.
Pour Global Witness, la loi sur les hydrocarbures, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, créerait un système opaque d'attribution des droits pétroliers et ne rendrait pas obligatoire la publication de ces contrats. Cette ONG estime que cela augmenterait les risques de corruption dans les secteurs. En outre, cette loi ouvre la porte au forage dans les parcs nationaux et les sites du patrimoine mondial du Congo. Global Witness demande instamment aux autorités congolaises d'ouvrir le projet de loi à une consultation publique, comme elles l'ont fait avec la révision du code minier du pays. La contribution des recettes pétrolières représente plus de 325 millions de dollars par an pour l'État congolais et ce chiffre devrait fortement augmenter, a déclaré Nathanaël Dayeux de Global Witness. Pour lui, ce nouveau projet de loi sur le pétrole offre au Congo et à sa population la possibilité de bénéficier de leur industrie pétrolière naissante, mais en son état actuel, celle-ci n'est pas adaptée à l'utilisation prévue. Il est vital d'intégrer dès à présent des garde-fous afin d'empêcher toute corruption dans les secteurs. Global Witness réclame la suppression de l'article controversé figurant dans le projet de loi qui ouvrirait la porte au forage dans les parcs nationaux et les sites du patrimoine mondial du Congo. Elle réclame également l'instauration d'un processus d'appel d'offres ouvert pour l'attribution des droits pétroliers, la publication des noms des propriétaires ou bénéficiaires réels ou effectifs des sociétés détenant des droits pétroliers et enfin la publication des contrats pétroliers.
Merci Kevin Kouté. En réaction aux propos de Global Witness, le ministre des Hydrocarbures estime que tout se fait dans la transparence. Le mode d'attribution des blocs pétroliers pour exploration reste la voie d'appel d'offres. Le ministre des Hydrocarbures a ainsi réagi lundi dernier à Radio Okapi. Crispin Atama-Tabe a souligné que le gouvernement de la RDC a le droit de faire l'exploration pétrolière partout où il veut, même dans les zones protégées, mais tenant compte de la protection de l'environnement. Crispin Atama-Tabe est joint au téléphone par Paul Matendo.
J'ai eu à parcourir la proposition de loi. On a bien écrit que l'attribution de blocs se fait par appel d'offres. Ils veulent que nous ne puissions pas mettre pied dans le parc de Virunga, c'est ça? Donc, tout le reste, c'est la distraction. J'ai lu son article et dit que les contrats antérieurement signés ne sont pas connus. S'il va au ministère des Mines, il va consulter le site web promis et tous les contrats signés avant notre avènement sont publiés. Même au ministère des Hydrocarbures, nous disposons des sites. Il n'y a qu'à consulter. Le monde entier peut regarder ce qu'il y a là-dedans. Concernant leurs préoccupations de l'espace ou des zones protégées, la RDC doit faire une évaluation réelle pour savoir qu'est-ce qu'il y a sous le parc. Ça nous appartient. L'adhésion de la RDC à l'UNESCO ou le fait de confier la gestion du parc de Virunga comme patrimoine mondial n'enlève en rien la souveraineté de la RDC sur cette portion de terre. En connivence avec mon collègue de l'environnement, nous allons faire l'exploration pour savoir ce qu'il y a en dessous. s'il y a du pétrole en quantité commerciale, je pense que le gouvernement devra se prononcer. En ce moment-là, ceux-là qui protègent le parc, nous allons discuter avec eux.
Nathaniel, d'ailleurs, vous êtes chargé de campagne à l'ONG internationale Global Witness. Vous venez de suivre la réponse, la réaction du ministre congolais des hydrocarbures à votre communiqué. Mais finalement, qu'est-ce qui vous inquiète par rapport au secteur pétrolier congolais?
Merci beaucoup, Alain. Donc, oui, nous avons publié ce communiqué de presse parce que nous voyons que actuellement le secteur des hydrocarbures apporte beaucoup d'argent à l'État congolais, donc plus de 300 millions de dollars par an, et que celle-là va augmenter dans les années à venir, comme vous avez dit dans votre introduction. Donc le Congo vient à la fin de l'année dernière de signer un accord avec l'Angola pour exploiter le pétrole offshore. Crispin Atama lui-même dit que la production pétrolière va augmenter de 25 000 barils par jour jusqu'au 225 000 barils par jour. Donc presque 10 fois, une augmentation de 10 fois. Et donc, il y a actuellement une loi qui est devant le Parlement. Cela a déjà été voté par le Sénat et on pense que cela sera voté bientôt par l'Assemblée nationale quand la prochaine session commence le 15 septembre. Et nous avons fait notre analyse sur la loi et nous avons trouvé que la loi manque même des garde-fous basiques contre la corruption et pour protéger l'environnement. Ce n'est pas seulement nous qui ont fait ça, on a montré ça à des avocats qui a eu la même réponse que nous, et nous avons publié leur analyse sur notre site web. En fait, tous nos documents sont disponibles sur notre site web qui est globalwitness.org. Et donc je peux aller un peu plus loin dans ce que nous aimerons voir améliorer la loi, si vous voulez.
Alors, les améliorations de la loi, nous allons aborder ça dans la deuxième partie de cette émission, mais vous avez suivi le ministre qui dit que les contrats se font par appel d'offres, mais qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement encore dans cette loi?
Oui, j'étais très heureux d'entendre que Monsieur le ministre disait qu'il y aura beaucoup de transparence dans le secteur et il y aura des appels d'offres. Ce que je dirais à ça est que on aimerait voir que ces promesses sont également dans la loi, parce que actuellement dans la loi il y a une manque de transparence. Donc, il n'y a pas un article dans la loi qui dit que les contrats devraient être publiés. Il n'y a rien dans la loi pour dire que les vrais propriétaires ou bénéficiaires des droits miniers devraient être, le nom devrait être rendu public. Et également, le processus d'appel d'offres actuellement dans la loi est très partiel. Ce n'est pas un processus ouvert et compétitif. Et un bon processus d'appel d'offres, c'est la meilleure façon pour le Congo de bénéficier de ses ressources. Le Congo est très riche en ressources, mais comme vous savez, c'est un des pays les plus pauvres du monde. On voit que le développement du secteur des hydrocarbures, c'est une grande opportunité pour le Congo et pour sa population de se développer. Mais on veut éviter que cette richesse est utilisée pour très peu de personnes et non pour la population. Nous avons vu ces dernières années des situations similaires dans le secteur minier. Donc, il y a une ONG qui s'appelle Africa Progress Panel, qui est dirigée par l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui a estimé que l'État congolais a perdu 1,36 milliard de dollars américains entre 2010 et 2012 à travers les accords opaques dans le secteur minier, où les sociétés offshore ont acheté des mines à des prix bas et après revendu ces mines à des grandes sociétés internationales.
Merci.
Et ce chiffre-là, 1,3 milliard de dollars, c'est à peu près double les dépenses annuelles pour l'éducation et la
Merci.
Santé en RD Congo. Donc on aimerait éviter cette situation dans le secteur des hydrocarbures.
Merci Nathanaël Dayeux. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Vous êtes également rapporteur adjoint de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Vous venez de suivre Nathanaël Dayeux de Global Witness. Quelle est votre analyse, honorable Nzekouye?
Oui, je crois que nos amis de Global Witness font beaucoup d'amalgame dans leur analyse. D'abord, comme le ministre Atamala dit, l'attribution des droits pétroliers se font par appel d'offres et qu'il n'y a pas de crainte quelconque sur le processus d'appel d'offres. Seulement, il est vrai que on estime que si une société a accepté de dépenser de l'argent pour l'exploration dans notre pays, il doit avoir un droit de préemption au moment de passer à la production. Parce qu'il est anormal qu'une entreprise dépense beaucoup d'argent pour découvrir une richesse pétrolière, ce qui coûte du reste beaucoup plus cher que dans le domaine minier, qu'on l'écarte sans aucune raison pour l'étape de la production.
Là, vous faites allusion à Soko.
Non, je ne cite aucune société parce que il parle d'une règle générale. Ils n'ont pas parlé d'une société quelconque. Et par rapport à Soko, Soko se retrouve dans leur inquiétude du point de vue environnemental, où ils disent que la société Soko ne peut pas exploiter ou explorer du pétrole dans les parcs parce qu'il s'agit d'un patrimoine universel de l'humanité. Je vais vous lire deux articles de la Convention sur le patrimoine universel. L'article 6 dit ceci. En respectant pleinement la souveraineté des États sur les territoires desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur les dits patrimoines, les États parties à la présente convention reconnaissent qu'ils constituent un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer. Le point 2 de cet article dit ceci plus clairement, les États parties s'engagent en conséquence et conformément aux dispositions de la présente convention à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé au paragraphe 2 et 4 de l'article 11, si l'État, sur le territoire duquel il est situé, le demande. Donc, il n'y a pas un droit supérieur de la communauté internationale sur un bien appartenant à un État qui a un patrimoine culturel ou naturel visé dans la Convention sur le patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO. Donc, l'État congolais ayant accordé des droits réels dans les parcs Virunga, il lui appartient à lui de faire respecter ces droits-là. Cependant, étant donné que les parcs, c'est une source de revenus et c'est quelque chose qui est un héritage pour toute l'humanité et les générations présentes et futures, il doit garantir qu'il y aura suffisamment de mécanismes pour éviter que l'exploitation pétrolière n'enfreigne ou n'ait des conséquences négatives sur les parcs. Et là, la loi qu'ils incriminent, Nathanaël, il a dit qu'il n'y a pas de garantie suffisante dans la loi pour la protection des aires protégées ou de la protection de l'environnement de façon générale, c'est faux et archi-faux. La loi que nous avons examinée et que nous allons débattre en plénière ici à la session de septembre prévoit des mécanismes très contraignants en matière de protection de l'environnement en amont, pendant et en aval de l'activité industrielle, pétrolière ou autre. Donc j'estime que cet alarmisme n'a aucun sens et par moments ça frise l'injure et manque de respect de la souveraineté des États. J'ai suivi il y a un mois un collègue parlementaire allemand qui est revenu sur la même question avec un ton impérieux, comme si nous sommes encore dans une situation de colonisation. Il faut nous conseiller, nous donner des avis. La préoccupation de dire que les biens du Congo doivent profiter aux Congolais, c'est une préoccupation légitime et que nous acceptons.
Merci.
Qui nous disent par où il y a un problème, nous pouvons agir, mais qui ne donnent pas l'impression que ce sont eux qui doivent nous donner l'ordre de ce que nous devons faire ou de ce que nous ne devons pas faire.
Merci.
Nous n'acceptons pas.
Merci, honorable Nzekouye. Willy Kalingai, vous êtes directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Vous avez suivi Nathanaël Dayeux de Global Witness ainsi que la réplique de l'honorable Nzekouye. Quelle est votre analyse? On a surtout l'impression que ce sont les autres, permettez-moi l'expression, qui s'inquiètent des ressources naturelles du Congolais que les Congolais eux-mêmes.
Merci beaucoup de vous donner la parole. Je crois qu'il y a quand même, j'ai toujours apprécié les analyses et les publications de Global Witness. Chaque fois que l'occasion m'était donnée de relayer le rapport, je n'ai pas hésité. Mais le dernier rapport me laisse perplexe et je suis quand même étonné de l'approche que Global Witness est en train de mener. Je voudrais ici réagir à deux choses, essentiellement. D'abord, la première chose, c'est que Global Witness dit qu'il faut protéger le parc parce qu'il s'agit bel et bien du parc de Virunga et que l'exploration pétrolière dans ce parc sera une très mauvaise chose par rapport au parc. Mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux du parc? Le parc est envahi par des groupes armés. La faune et la flore sont complètement détruite à cause de la guerre et depuis de nombreuses années. Je n'ai pas lu un seul article, une seule publication de Global Witness par rapport à cette situation-là. Alors, comment est-ce qu'on protège les parcs en refusant qu'il y ait exploration pétrolière? Donc, la question n'est pas de la protection du parc. La question fondamentale, c'est l'exploration pétrolière. Et c'est là où je suis un peu sidéré, parce que je pense quand même qu'il faut qu'on se dise les choses en face. Nos amis travaillent et veulent absolument lever dans l'opinion nationale des objectifs légitimes, notamment combattre la corruption, notamment permettre à ce que tout le monde puisse accéder aux ressources naturelles et qu'elles puissent profiter à l'État congolais. Mais quand il dit, par exemple, que l'État congolais tire 300 millions de dollars par an et que cela, c'est beaucoup, c'est ridicule. Vous savez que l'exploration, la production pétrolière, Notre destinée pétrolière en tant que nation est totalement insignifiante. Nous sommes en train d'espérer avoir un jour un budget de 20 milliards de dollars. Nous ne l'aurons pas en comptant sur 300 millions. Il y a donc bel et bien une volonté, et je ne sais pas pourquoi, les amis du Global Witness se laissent aller à ces jeux-là. Il y a bel et bien une volonté internationale quelque part qui voudrait empêcher le Congo d'accéder au statut pétrolier. C'est ça le problème. C'est ça la vérité. Une troisième chose sur laquelle je voudrais insister, d'ailleurs je crois que l'honorable Sekouye vient de le dire, c'est le Congo qui a déclaré le parc Virunga patrimoine mondial. C'est nous qui offrons, le Congo qui offre à l'UNESCO. Mais le statut du patrimoine mondial n'est pas une expropriation par rapport au Congo. Une dernière réalité, je voudrais ici, cher Igund, relever, c'est que aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que dans d'autres pays, malheureusement, Global Witness fait partie de ce genre de projets à l'extérieur. Dans d'autres pays, aujourd'hui, je ne vais pas plus loin que le Gabon ici ou l'Ouganda, l'exploration pétrolière est combinée à la protection de l'environnement. Et je ne sais pas pourquoi ce qui se fait ailleurs avec bonheur ne peut pas se faire au Congo. Pourquoi au Congo, on pense que la technologie ne permet pas l'exploration pétrolière et la protection de l'environnement. Donc nous sommes bel et bien devant une campagne qui cache mal ses intentions, qui cache mal évidemment sa volonté de permettre à un pays où la pauvreté est criante, où la majorité de la population souffre aujourd'hui, et que si nous n'arrivons pas à une croissance à deux chiffres, nous ne parviendrons jamais à juguler la pauvreté dans ce pays. Et pour y arriver, il faut absolument exploiter le pétrole. Ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas voulu.
Mais Willy Kalingaï, le pétrole en RDC, il y en a quand même dans plusieurs endroits, notamment la cuvette centrale et ailleurs. Pourquoi seulement le parc de Virunga?
Vous savez, ce que je vous dis là, c'est-à-dire que c'est, en réalité, il y en a partout et l'exploration se fait partout. Vous savez que l'exploration s'est faite sur le lac de la Calbert et dans les Grabens Albertines. L'exploration s'est faite même dans les Bandundu, partout, ça s'est fait. La difficulté, c'est que, la réalité, c'est que il y a un mélange de genres. Le souci de protéger l'environnement est un bon souci. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-il possible de protéger et de faire l'exploration? Cette question, je viens de vous dire que c'est possible. Ici, dans le parc de Gamba, au Gabon, ça s'est fait. Récemment, nous avons été en Ouganda, nous avons vu dans le parc de Queen Elizabeth, Castella s'est fait aujourd'hui. Ça veut dire en réalité que nous sommes devant. Vous voyez, par exemple, le gouvernement demande à un parlement de suspendre le vote d'une loi. Donc la volonté populaire incarnée par les parlements, discutée par des experts, cette loi est passée partout dans les différentes structures de notre État. C'est pourquoi je suis étonné de la manière dont nos amis de l'OLDNES ont pris ces dossiers. C'est comme si, quelque part, ils jouaient un rôle qu'il leur était demandé de jouer.
Merci. Merci Willy Kalingaï. Nathanaël d'ailleurs, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahomé de Bukavu au sud Kivu. La proposition de Global Witness n'est pas en soi mauvaise. Je pense cependant que cette ONG ne devrait pas perdre de vue que face à une telle source de développement et d'économie avérée, la RDC ne serait pas amenée à la sacrifier facilement au profit du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est question de souveraineté.
Question de souveraineté, l'honorable Nzekui également l'a dit. Comment vous réagissez, Nathanaël?
Oui, merci beaucoup, Alain. Donc, j'ai suivi avec intérêt les interventions. J'aimerais souligner que nous ne sommes pas contre l'exploitation pétrolière au Congo. Et comme je disais tout à l'heure, on voit que ça pourrait être une opportunité. Mais on veut qu'il y ait un plus grand débat sur où sont les meilleurs endroits pour exploiter le pétrole, et est-ce qu'il y a des endroits qui devraient être hors limite. Et nous croyons que le parc de Virunga, en tant qu'un des bijoux naturels du monde, est un des derniers endroits qu'on doit exploiter le pétrole. Monsieur Honorable a cité tout à l'heure l'accord international, mais j'aimerais citer la loi sur l'environnement de RD Congo de 2011, l'article 33 qui dit « Toute activité susceptible de nuire à l'environnement est prohibée dans les aires protégées ainsi que dans les zones interdites. Et nul tout doit accorder dans les limites des aires et zones visées. » Donc, si le Congo, qui est bien sûr souverain de ses propres terrains, voulait exploiter dans le parc de Virunga, il devrait suivre au moins ses propres règles et lois. Et donc, le parc de Virunga devrait être déclassé suivant la loi si le gouvernement congolais aimerait prendre cette démarche. Et actuellement, ce que nous avons dans la loi, c'est un article dont je parle de loi des hydrocarbures, bien sûr, qui dit que un décret de conseil de ministre peut déroger aux mesures de restriction concernant les aires protégées et les zones interdites. Donc, je plaide simplement pour que les lois du Congo elles-mêmes soient respectées. Et je crois que on a vu un peu partout au Congo où les richesses naturelles peuvent exister côte à côte de la misère de la population. On peut parler d'exploitation minière au Katanga ou l'exploitation des hydrocarbures à Moanda. Quels sont les bénéfices que la population a vraiment vu? Et le RD Congo est sur la première étape de sa augmentation de production pétrolière. Et donc, on aimerait voir que les richesses de ce pétrole va vraiment à la population du Congo.
Alors, très brièvement, Nathanaël Dayeux, vous avez suivi également Willy Kalingaï qui se posait la question de savoir quel est finalement aujourd'hui l'état des lieux de ce parc envahi par les groupes armés, envahi par les populations autochtones. Est-ce que vous y avez pensé aussi?
Oui, bien sûr, nous aimerons voir, comme tout le monde, les rebelles évacués du parc et que la paix peut revenir. Et cela va permettre les touristes extérieurs d'aller à la parc et d'apporter les moyens. Mais je pose la question, est-ce que l'exploitation pétrolière dans ce zone, est-ce que cela ne va pas augmenter l'insécurité? On a vu souvent au Congo où les ressources naturelles sont liées à la conflit. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement congolais soutenu par certains bailleurs ces précédentes années d'aider le parc et cela a eu des impacts. Mais si l'exploitation pétrolière est autorisée maintenant, on risque de revenir vers le bas et que les richesses de la PAC sera perdues.
Honorable Nzekouye, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur.
Chef de travaux Jean-Bernard Mibeko Missia, Mbandaka, province de l'Équateur. La crainte n'est pas seulement au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de la qualité des contrats et aux droits de l'État. Est-ce que cette exploitation se fera-t-elle en toute transparence? N'est-il pas là une opportunité pour enrichir les individus au détriment de l'État?
Une opportunité pour enrichir les individus, Nathanaël Dayeux se posait la question de savoir quels sont finalement les bénéfices que la population a tirés des activités minières et autres extractives. Honorable Nzekouye.
Oui, je crois que ce que j'ai accepté de Nathanaël, que je connais très, très bien, nous avons partagé ensemble une réflexion au CEPAS il y a quelques mois, et je crois que c'est cela qui l'a poussé à faire ce rapport, même s'il n'a pas voulu me contacter par la suite pour lui donner de plus amples explications sur la loi. N'en déplaise, nous aurons sans doute l'occasion d'en discuter, parce que la loi sur les hydrocarbures va être examinée en plénière. Donc s'il a des préoccupations quelconques, il peut nous les soumettre, et nous verrons si elles sont valables pour être intégrées dans la loi, mais il ne peut pas nous demander de suspendre l'examen d'une loi qui n'en a ni les droits ni les compétences. Et donc, j'estime que les préoccupations de faire en sorte que nos ressources naturelles profitent aux populations, c'est une préoccupation congolaise. On ne peut pas être dirigeant d'un pays et ne pas penser à ce que ce qu'on produit dans les pays profite aux populations. Donc, s'il a des conseils à nous donner dans ce sens-là, nous allons les examiner avec bienveillance. Mais j'ai dit que, encore une fois, mon ami Nathanaël a une analyse qui est très tronquée. Quand il dit que, d'abord, il se pose la question si l'activité pétrolière doit avoir nécessairement un impact négatif sur la conservation, et il cite la loi sur les grandes lignes sur la protection de l'environnement. Je crois que il doit considérer que nous examinons d'abord l'activité concernée, la société qui veut faire l'activité extractive doit fournir une étude d'impact environnemental, un plan de gestion environnementale qui garantisse que l'activité ne nuira pas à la conservation. Et si nous nous rendons compte qu'en faisant la balance entre l'activité extractive et la conservation dans une partie ou dans l'ensemble des aires protégées, la loi que nous venons de voter sur la conservation de la nature prévoit des mécanismes de désaffection de certaines parties pour pouvoir garantir le fait que nous profitions et des activités de conservation et de l'activité extractive. Mais nous sommes loin de cela. Willy Kalinga vient de lui dire que il est possible d'avoir des activités d'exploitation pétrolière dans des aires protégées sans nuire à l'environnement. Et donc, nous devrons aussi entendre une certaine équité d'analyse de beaucoup d'organisations internationales, dont Global INES, sur la question, parce que le parc de Virunga, il est le parc voisin et en communication avec le parc Queen Elizabeth en Ouganda. Mais on n'a jamais entendu qu'il s'en émeuve, parce qu'il y a des périodes de transhumance qui font que les animaux quittent le parc de Virunga pour aller au parc Queen Elizabeth, et inversement, et qui ne s'émeuvent pas non plus du fait que l'activité des braconnages et la présence des groupes armés dans les parcs affecte sérieusement les parcs. Il faudrait quand même qu'ils soient plus justes en nous aidant à régler ces problèmes. Je sais qu'il les décrit dans d'autres contextes, mais dans ce contexte, il ne les souligne pas. Merci. D'autre part, j'ai dit que il n'est pas acceptable de dire que l'exploitation pétrolière peut augmenter la sécurité. Tout le contraire, les entreprises qui vont venir chez nous, qui ont des intérêts, vont nous aider aussi à sécuriser, parce que d'abord, ils vont prendre une main-d'œuvre locale qui est pour le moment au chômage et réduire l'insécurité.
Merci.
Mais aussi, partout où il y a des grandes activités industrielles, la sécurité existe. Regardez à Fungurume avec Tenke Fungurume Mining. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une sécurité de ce côté-là? Est-ce
Merci.
Que dans le nord de la province oriental où AngloGold et d'autres exploitent l'or aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sécurité? Donc l'activité industrielle peut amener à accroître la sécurité et tout le contraire.
Merci honorable Zekoué.
Donc il faudrait que
Merci honorable Soufré, que je vous arrête, le temps est en train de filer. Que faire pour assurer la transparence dans le secteur pétrolier en RDC, selon René Ngongo, coordonnateur d'industrie extractive à l'ONG VVF? Il faut notamment assurer un processus participatif et harmoniser les différentes lois. Il faut en plus que la RDC respecte ses engagements internationaux en matière d'air protégé. On l'écoute au téléphone de Samuel Kachak.
Je crois que la première des choses serait primordiale d'assurer, pendant la phase d'élaboration de la loi et de ses mesures d'application, une large consultation des parties prenantes. Cela a été fait dans le cadre du code forestier et dans la révision actuelle du code minier. Il y a tout un processus participatif et nous pensons que Global Witness a raison de demander que cela se passe comme ça a été le cas du code minier et du code forestier. Et puis, il est important que les lois que le pays est en train d'élaborer puissent s'harmoniser, qu'il n'y ait pas de contradiction, parce que quand vous lisez la loi actuelle portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, dit que toute activité susceptible de nuire à l'environnement est prohibée dans les aires protégées ainsi que dans les zones interdites. Cette loi, dans la linéaire qui suit, dit qu'elle nulle tout droit accordé dans les limites des aires protégées. Donc vous comprenez qu'il est important de pouvoir harmoniser nos différentes lois et notre pays doit, dans le cadre de la transparence, respecter les différents engagements, notamment la Convention sur le patrimoine mondial.
Willy Kalingai, que pensez-vous de l'aspect harmonisation des lois évoquées par René Ngongo?
Il a raison, il faut qu'il y ait une cohérence dans la prise de loi. Je pense que c'est un déficit que je reconnais quand j'observe ma société. Vous avez le droit foncier, vous avez le droit minier, donc le code minier. Maintenant, vous avez le code hydrocarbures qui va être voté. Vous aurez certainement le code forestier. Il faudrait que ces différentes lois qui portent sous la même terre, qui portent sous les mêmes airs, soient harmonisées. C'est une nécessité. Mais l'harmonisation, ça voudrait dire la capacité de ces lois de régler les problèmes de la nation congolaise. La loi est faite pour que les hommes, en la respectant, règlent leurs problèmes et leurs rapports humains, leurs rapports personnels et économiques. Il ne s'agit pas de faire une loi pour empêcher un pays de progresser. Et je suis en train de sentir que, généralement, les pressions qui multiplient, qui sont faites sur le Congo, c'est pour que le Congo ne puisse pas progresser. Évidemment, nos amis sont gentils, ils sont des défenseurs de droits, ils se battent pour avec un idéal que je respecte davantage. Mais ici, nous sommes en présence d'un peuple qui se meurt parce que la pauvreté est entrée partout, parce qu'il s'agit de lui trouver des moyens de survie. Et ces moyens, vous ne pouvez le trouver que parce que vous voulez exploiter vos richesses. Vous savez bien que l'on dit que le Congo est un pays, ce sont des gens qui vivent, des mendiants qui sont assis sur de l'or. Le monde entier sait que le Congo est un pays potentiellement riche, mais que les Congolais sont des pauvres. Mais maintenant que les Congolais veulent exploiter ces richesses qui sont dans leur sol, on leur dit non, les richesses appartiennent au patrimoine mondial. Il faut qu'on fasse attention, il faut que l'on grandisse, que l'on croisse, que l'on devienne un pays responsable. Et par rapport à l'harmonisation de lois, je suis d'accord qu'on doit harmoniser les lois, mais les lois doivent servir à la promotion des peuples, à la promotion de notre économie, et ne peuvent pas être faites pour pouvoir empêcher la dynamique nationale de se mettre en place.
Willy Kalingaï, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Ibrahim Bimona Bantu à Kisangani dans la province orientale. Je m'inscris en faux pour l'exploitation du pétrole dans notre pays, car cela ne fera qu'enrichir certaines personnes. Pourquoi ne pas promouvoir l'agriculture qui est le moyen par excellence pour lutter contre la faim et la pauvreté? À quoi nous ont servi les contrats léonais dans les mines?
Agriculture comme solution alternative, Willy Kalingaï.
Mais je pense que l'une activité n'empêche pas l'autre. Je crois que nous devons savoir ce qui est fait en ce qui est à notre disposition. Même si nous voulons faire l'agriculture, ce qui est une bonne chose, il faudra financer cette agriculture. Vous les intrants, les techniciens, les technologies, vous allez les avoir comment si vous n'avez pas de cash. Vous avez la possibilité d'avoir une ressource. Ce qui est vrai, c'est que il ne faudrait pas que l'exploitation du pétrole soit évidemment une occasion pour qu'une clique de personnes s'enrichisse. Ça, ce n'est pas bon. Mais je pense que l'industrialisation d'un État, les investissements des groupes étrangers importants qui respectent la souveraineté de notre pays, qui respectent l'environnement, c'est une très bonne chose. Nous n'allons pas réinventer la roue. Les États-Unis, l'URSS, la Chine se sont développés grâce aux ressources naturelles qu'il y avait dans leur pays, mais surtout grâce aux investissements. Je suis d'accord que l'agriculture doit être une des priorités, mais elle doit être financée. D'où viendront les moyens pour financer l'agriculture ? Pour qu'elle puisse soutenir notre économie. Je pense que la crainte de notre ami de Kisangani est justifiée, c'est seulement si l'exploitation aboutit à une privatisation de cette ressource. Mais si nous avons un parlement, un peuple digne, une opinion vigilante, nous pourrions quand même, avec intelligence, comme tous les peuples du monde, arriver à une exploitation judicieuse de nos ressources et sortir du cercle de pauvreté. Je reviens sur ça. 90% des Congolais sont en deçà du seuil de pauvreté. Et c'est intolérable pour une nation qui a des ressources aussi importantes et qui ne devrait qu'écouter les plombs de son peuple et non les revendications mal placées souvent de certains collègues.
Alors, Willy Kalingaï, vous parlez d'un parlement responsable et d'une opinion publique agissante. Cela suffirait-il en termes de préalable pour renforcer le secteur des hydrocarbures en RDC?
Le secteur des hydrocarbures est un secteur de professionnels. Je ne pense pas que c'est un secteur qui est à la portée du premier venu. Il ne faudrait pas que, parce que c'est notre pays, parce que c'est notre droit, nous avons le droit de donner notre opinion sur n'importe quel sujet. C'est un secteur de professionnels et je pense que dans le monde entier, pour qu'un tel secteur soit mis en place, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est la loi, c'est la volonté. Quelle est notre vision en matière de pétrole? S'il y a une volonté politique qui a été exprimée, s'il y a une vision, et j'espère qu'il y en a, et je crois qu'il doit y en avoir, à ce moment-là, nous pourrons maintenant enrichir cela par une appropriation des populations et de l'opinion publique. Les parlements, je pense que l'honorable Nzekouye est un expert dans la matière. Les parlements sont quand même constitués des hommes sérieux qui connaissent les tenants, les aboutissants, qui sont des professionnels. Il s'agit de voter une loi qui obéissent aux impératifs de notre développement.
Merci.
C'est cela l'objectif d'une loi.
Merci Willy Kalingaï. Je signale en passant qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Nathanaël Dayeux, chargé de campagne à l'ONG International Global Witness, vous souhaitiez en parler en début d'émission. Il y a des choses que Global Witness réclame. Allez-y très rapidement.
Oui, donc on voudrait voir dans la nouvelle loi, les publications des contrats pétroliers. On veut voir la publication des noms de propriétaires ou bénéficiaires des sociétés qui ont des droits pétroliers publiés. Et on veut un processus d'appel d'offres ouvert et également la suppression de l'article qui va ouvrir la porte au forage dans les parcs nationaux. Mais même si entre nous ce soir, nous ne sommes pas d'accord pour l'avenir de parc de Virunga, ce qui est très important pour nous, c'est la gestion de revenus de pétrole et la meilleure façon pour s'assurer que ces revenus soient gérés dans une bonne manière, c'est la transparence, c'est la publication dans le domaine public des documents importants et de chiffres. Et donc,
C'est pour cette raison que nous avons jugé que c'était bon pour nous, pour essayer d'alimenter ce débat. Et nous pensons que avec la loi des hydrocarbures, le gouvernement devrait suivre le même processus de consultation qu'il suit pour la révision du code minier. Pourquoi cette différence entre le code des hydrocarbures et le code minier? Donc, nous croyons que cette loi cette loi n'est pas bonne et devrait être améliorée. Et tout le monde a besoin de plus de temps pour améliorer cette loi.
Et en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Je crois que je viens de dire l'essentiel. Je veux dire que la loi des hydrocarbures devrait être fondée sur la transparence et ça devrait favoriser le bien-être de tous et le développement durable dans la République du Congo.
Merci, Nathaniel Dayeux, chargé de campagne à l'ONG International Global Witness. Honorable Nzekouye, vous venez de suivre ce que Global Witness réclame. Il faut déjà atterrir, on va conclure. Quelle est votre réaction?
Oui, je crois que Global Witness est la bienvenue pour des avis sérieux qui nous aide à améliorer la loi qui n'est pas encore soumise au vote. Mais il doit éviter de s'arroger des droits que personne ne lui reconnaît. Le Congo est un État souverain, ils ne peuvent pas se permettre de dire qu'on suspende l'examen d'une loi. D'autre part, la loi sous examen prévoit des garde-fous pour la protection de l'environnement partout où il y a une activité industrielle et très particulièrement dans les aires protégées. Troisièmement, j'ai dit à Jérôme Ngongo qu'il n'y a pas de contradiction entre des lois dans les secteurs, en tout cas pas la loi énonçant les principes généraux sur l'environnement et la loi sur la conservation de la nature, encore moins la loi sur les hydrocarbures. Je les invite à un dialogue. Nous le faisons avec d'autres structures sur d'autres matières, et y compris même sur la loi sur les hydrocarbures. Je me demande pourquoi ils ne s'approchent pas des parlementaires pour échanger plutôt que de mettre dans l'opinion publique des idées qui sont fausses et qui nuisent à l'image de la République démocratique du Congo.
Honorable, pouvez-vous garantir aux auditeurs internautes qui nous suivent qu'avec cette loi qui sera adoptée d'ici là, comme le demande Global Witness, la population congolaise pourrait voir les retombées de ce secteur?
Absolument. Vous savez, je suis personnellement expert en environnement et en développement communautaire. Nous avons cette sensibilité. Nous estimons que les richesses de ces pays doivent profiter à la population congolaise. Et nous avons exigé, à travers cette loi qui va être examinée et la loi minière aussi qui va être révisée, qu'une quantité de bénéfices tirés par les entreprises dans les secteurs extractifs puissent être reversés directement aux communautés locales.
Merci.
Mais faut-il encore que les communautés locales s'organisent pour être capables d'absorber cette manne?
Merci.
Et ne pas l'utiliser comme un cadeau pour les chefs coutumiers ou quelques personnes dans les communautés locales.
Merci, honorable Nzekouye. Willy Kalinga, et conclusion.
Au contradictoire, nous sommes comme arrivés à la même conclusion avec notre ami Global Witness. Évidemment, je suis d'accord avec lui qu'il faut de la transparence dans les secteurs des hydrocarbures, qu'il faut que les flux financiers qui sont opérés dans ces secteurs soient rendus publics. Je suis d'accord, je crois que notre pays est engagé dans le processus de l'IDIE, même si parfois ça nous joue des tours. Mais je suis content quand même que ce débat ait pu avoir lieu et que ça nous a permis de situer la problématique et surtout de situer le travail qui est fait par les différents partenaires. Moi, je suis heureux d'avoir été ce soir de vote.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter. Guy Maté, Guy Manzangou, Kevin Kouté, Samuel Kachak, Patrick Kiasongwa, sous la supervision de Martin Sebujangwe, coordination et présentation Alain Rung Mouchige. Vous nous avez suivis. Merci de votre attention.